Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat confiné, enregistré la veille de sa diffusion, chacun chez soi, mais rassemblé grâce à la technique et aux techniciens de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, du retour de l'État au retour des collectivités, le tout début de la crise du coronavirus a été marqué par des dispositions régaliennes exceptionnelles justifiées par le président de la République en raison de la guerre, comme il le disait, contre le virus. Confinement, restrictions de circulation, fermeture des lieux publics et d'un grand nombre de commerces, transfert de malades d'un bout à l'autre du territoire, l'État centralisé, si souvent critiqué les mois précédents, en particulier par le mouvement des Gilets jaunes, eh bien montrait alors sa puissance. Mais 6 semaines plus tard, ce même État, qui ne cessait avant la crise de s'accrocher avec les collectivités territoriales, les maires, les départements ou les régions, a décidé de s'appuyer sur ces mêmes collectivités pour mettre en œuvre le déconfinement. Une tâche qui nécessite un certain doigté, on l'aura compris, tant les relations entre l'État et les maires étaient par exemple tendues il y a encore quelques mois. Alors, assistons-nous à un retour des collectivités dans le jeu politique national? C'est ce que nous voyons ce soir dans le temps du débat en compagnie d'Agnès Lebrun, vice-présidente de l'Association des maires de France et maire d'hiver droite de Morlaix, d'Alexis Corbière, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et de Anne-Cécile Douillet, professeure de sciences politiques au CERAPS à Lille et co-autrice avec Rémi Lefebvre de sociologie politique du pouvoir local chez Armand Collin. C'était en 2017. Bonsoir Agnès Lebrun, vous êtes avec nous et vous êtes maire d'hiver droite de Morlaix. Vous étiez intervenu dans l'émission que nous avions faite en direct depuis le congrès des maires de France. C'était à la porte de Versailles. C'était un moment extrêmement tendu, on s'en souvient peut-être, des relations entre l'Association des maires de France et le président de la République qui s'était rendu sur place et qui n'avait pas été accueilli de manière tout à fait amène. Est-ce que vous êtes surprise, Agnès Lebrun, de vous retrouver dans une situation où aujourd'hui on vous demande, de la part du gouvernement et de l'État, une collaboration accentuée donc avec l'État autour des questions en particulier de déconfinement?
Bonsoir. Surprise non, parce que on voit bien que malheureusement la démarche de l'État, elle est plus utilitariste que sincère. Donc effectivement, on nous trouve quand on a besoin de nous. Ça s'est produit également pendant la crise des Gilets jaunes et nous n'avons jamais manqué le rendez-vous de la consolidation de la cohésion sociale et nationale. Mais malheureusement, nous vivons aujourd'hui un exercice grandeur nature où l'État aurait pu faire preuve d'une coopération plus constructive, et en vérité on se rend compte que c'est à minima un management descendant. Et quand je dis management, évidemment c'est pour dire que ça n'est absolument pas la relation que souhaitent les maires avec l'État.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que on voit bien que non seulement c'est utilitariste, non seulement on nous dit ne vous inquiétez pas, nous allons décentraliser et vous allez avoir beaucoup de responsabilités, mais en fait de responsabilités, pardon de l'expression, mais c'est plutôt une patate chaude. C'est-à-dire que on voit bien par exemple que tout bute au moment où nous demandons à ce qu'il y ait une véritable protection juridique des maires qui engagent leurs responsabilités personnelles. Nous sommes prêts évidemment à aller plus loin dans la coopération avec l'État. Encore faut-il que ce qu'on nous donne comme responsabilité, ça ne soit pas une sorte de mise à disposition d'un certain nombre de responsabilités qui pourraient peut-être nous grandir. C'est un peu vous en voulez, on vous en donne, et maintenant montrez-nous ce que vous savez faire. L'État se lave les mains de cette affaire. Et l'exemple le plus récent, c'est ce fameux protocole sanitaire. Et cet exemple est assez révélateur, parce que les maires étaient absolument disposés à tout faire pour que l'école rouvre dans des bonnes conditions, parce que les maires sont très attachés à l'école républicaine, parce que les maires sont très attachés à ce que l'école soit un lieu d'émancipation et que les enfants puissent y retourner. Mais nous demandions la différenciation locale, nous demandions un échelon fin. Nous demandions une appréciation locale avec un couple maire-préfet qui aurait tout à fait pu marcher. Et au lieu de cela, nous avons un protocole sanitaire de 63 pages qui est tombé lourdement sur nos bureaux sans aucune explication et sans aucune possibilité de négocier. Et évidemment, ça révèle bien ce qu'est l'État en vérité.
On va y revenir sur cette question du protocole sanitaire. Vous êtes également avec nous, Alexis Corbière. Bonsoir. Donc, vous êtes député de Seine-Saint-Denis, Montreuil. Montreuil, Bagnolet, c'est votre circonscription. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce qui vient d'être dit par Agnès Lebrun, eh bien, vous le confortez en tant que député de Seine-Saint-Denis? On sait effectivement que les questions de différenciation territoriale sont importantes dans cette crise sanitaire, puisqu'il y a des régions qui sont beaucoup moins touchées que d'autres. Vous, votre région, évidemment, la région parisienne et en particulier la Seine-Saint-Denis sont très touchées. Est-ce que ces questions de différenciation, ça vous paraît important?
Alors, je reprends de ce que vient de dire Agnès Lebrun, l'expression « la patate chaude ». C'est-à-dire qu'effectivement, quand on met à plat le discours, je pense celui notamment à celui du Premier ministre, d'Edouard Philippe, de sortie du confinement, est en vérité un discours qui se repose surtout sur les départements, les régions, les villes. Mais on se demande finalement ce que l'État, lui, propose pour sortir de ce confinement, à commencer par ce qui est le nerf de beaucoup de choses, c'est-à-dire les financements. Et c'est là-dessus qu'il y a un problème. Mais je reprends la chronologie du raisonnement. D'abord, il était normal que le confinement soit national et qu'il ne soit pas décliné par une décentralisation ou par les collectivités. C'eût été totalement inefficace. Chacun le comprendra. Il ne pouvait y avoir des modes de confinement différents selon les communes, laissés à l'appréciation des départements, des maires, etc. C'était l'objectif même du confinement qui était remis en cause. Et c'est pour ça qu'il y a un caractère que moi qui me surprend, c'est-à-dire que pour sortir du confinement, nous aurions dû avoir une stratégie nationale. Nous, on a souvent répété le mot planifier, c'est-à-dire penser dans sa globalité, sinon ça ne marche pas, pour que chacun soit en situation de pouvoir le faire réellement. Et à partir de là, la date de sortie du confinement aurait été la conséquence logique d'un plan de sortie du confinement. À commencer par, pour aborder les choses très pratiques, s'assurer le fait que si nous demandons à nos concitoyens de reprendre le travail, est-ce que les conditions de protection sanitaire sont assurées, notamment par le fait que chacun dispose de masques, de gants, de protection, que les modes de transport qu'on leur demande de prendre sont véritablement en situation de les accueillir. Et là-dessus, bon, on a, moi, quelque chose qui me choque, je vais être très concret. Dans un département comme le mien, évidemment, les communes ne disposent pas toutes du même budget. Toutes les communes n'ont pas acheté le même nombre de masques. Toutes les communes ne vont pas distribuer à la population le même nombre de masques, ne vont pas le faire de la même façon. Et ça, c'est choquant. Je ne vois pas pour quelle raison il y aurait des villes qui disposeraient de budgets où il y a des distributions massives de masques qui sont programmées. Et dans d'autres, ça dépend, là aussi, des quelques moyens qui nous restent. Tout ça est assez surprenant. Idem pour les écoles. Je vois que certaines communes, je pense à Paris, peuvent avoir des protocoles d'accueil différents avec des réponses pédagogiques de qualité, parce qu'il y a des personnels, etc. Et puis chez nous, c'est un peu plus difficile, tout simplement, d'assurer le nettoyage des écoles où des gens ont manqué de personnel, où des personnels, d'ailleurs, ont été souvent assez exposés à la maladie. Et donc, tout ça, ce n'est pas normal. Si on parle d'un service public comme l'école, qui doit être une réponse nationale, qui peut pas être déclinée au bon vouloir et aux bonnes capacités, surtout, des mairies. Et là-dessus, effectivement, donc je reprends l'expression, c'est la patate chaude du gouvernement en direction des mairies et des collectivités qui dit « débrouillez-vous », mais elles n'ont pas toutes les mêmes moyens pour pouvoir se débrouiller. Et là, on disloque complètement le caractère national d'une sortie du confinement, et bien sûr, moi, je suis en désaccord avec ça.
Avant de donner la parole à Anne-Cécile Douillet, est-ce que vous voulez répondre, Agnès Lebrun, parce que je pense que vous n'êtes pas forcément tout à fait d'accord avec cette vision très centralisatrice qui vient d'être annoncée par Alexis Corbière. Vous voulez de la différenciation territoriale, alors que Alexis Corbière nous dit il faudrait que ce soit un plan unique.
Oui, mais je suis d'accord avec Alexis Corbière sur un point, c'est-à-dire que nous, Association des maires de France, nous demandions un référentiel commun, un cadre national en effet, et la différenciation territoriale, ça n'est pas chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Ça, c'est un objectif commun, l'école est républicaine, il faut combattre au maximum les ruptures d'égalité, quelle que soit la situation, et dans le contexte de crise, évidemment, plus encore, mais l'objectif est commun, et ensuite, l'appréciation, elle est locale, sur les moyens dont nous avons besoin, nous maires, pour atteindre l'objectif. Moyens dont nous avons besoin, pas moyens dont nous disposons intrinsèquement. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui vaut dans un endroit ne vaut pas dans un autre, et il faut une péréquation, si on veut, de sorte que ce qui est assez facile à mettre en œuvre dans un département vert, dans une petite commune où il y a une classe unique et où les choses peuvent se faire assez paisiblement parce que la commune a été relativement épargnée, etc., cette commune-là va peut-être peut-être avoir moins de besoins qu'une commune où il y a eu un cluster, où l'angoisse est très très grande de la part des familles et où les maires, évidemment, ne vont pas mettre non plus en danger leurs propres agents, et je ne parle pas encore des enseignants. Donc, on est d'accord sur un point, c'est-à-dire que décentraliser pour nous, ça n'est pas chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, dans sa commune. On ne demande pas les potentats. Les maires ne sont ni des shérifs, ni des petits chefs de principauté. On est très attaché à cette idée de cadre commun. Mais encore une fois, ce cadre commun, si en bout de course, on veut qu'il y ait un minimum d'égalité, eh bien, il faut qu'il y ait une adaptation aux réalités locales.
Anne-Cécile Douillet, bonsoir. Vous êtes professeure de sciences politiques à Lille. Vous avez écrit un livre sur la sociologie politique du pouvoir local. Ces questions d'accrochage entre l'État et ses représentants, en particulier les préfets, et les collectivités territoriales, qu'elles soient départementales, régionales ou encore les municipalités, c'est une question qui est, disons, relativement régulière dans l'histoire politique française. Et après des phases de décentralisation, il y a eu des phases de recentralisation. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre avec un État qui se sent plus puissant ou qui voudrait être plus puissant face à des collectivités qui voudraient, comme le disait à l'instant même Agnès Lebrun, mettre au pain ou filer la patate chaude?
Alors effectivement, même si depuis le début des années 1980, toute une série de lois sont allées dans le sens de la décentralisation, dans les faits, on a eu récemment des formes de recentralisation, notamment par un contrôle des finances locales, et ceci a été effectivement à l'origine d'un certain nombre de tensions dans les années très récentes entre le gouvernement et les collectivités territoriales, et en particulier à travers leurs associations. Donc oui, effectivement, cette crise sanitaire arrive après plusieurs mois de tensions entre le gouvernement et les collectivités territoriales. Effectivement, le gouvernement a eu plutôt une gestion centralisée de cette crise. En tout cas, ça a été à travers un discours, y compris martial au départ, une façon de réaffirmer l'autorité de l'État. Mais ce que je trouve intéressant dans ces dernières semaines, c'est aussi qu'on voit très bien comment les collectivités territoriales, elles aussi, à l'occasion de cette crise, se mobilisent, se mettent en avant pour montrer toutes les ressources qu'elles peuvent avoir, pour défendre leur légitimité, pour montrer qu'elles peuvent être plus efficaces que l'État. Et donc, je trouve que ces semaines que nous sommes en train de vivre sont aussi un moment de critique de la centralisation, un moment de défense du rôle des élus locaux et de la décentralisation. En tout cas, on voit que les associations d'élus se mobilisent. Par exemple, on les a vus il y a quelques semaines demander une accélération, enfin une remise à l'agenda dès que possible de la loi 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration, en disant « bon, bah, cette crise montre que la centralisation, ça ne va pas, redécentralisons ». Enfin, poursuivons la décentralisation. Effectivement, les élus se sont positionnés à travers des arrêtés parfois pas très légaux, mais en tout cas qui étaient une manière de dire « Regardez, l'État n'en fait pas assez, faisons-en
sur
plus ».
Sur les masques en particulier.
Voilà, tout à fait, les couvre-feux, entre guillemets. Et c'est vrai, quand on regarde la presse, y compris la presse étrangère, on voit qu'il y a une critique de la centralisation, c'est-à-dire que plusieurs journaux internationaux et nationaux posent la question de savoir si ce n'est pas une gestion trop centralisée qui expliquerait les difficultés en France. Donc, analyse très discutable, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ce moment-là est quand même un moment où les collectivités territoriales, quand même, sont remises sur le devant de la scène et où la centralisation est questionnée.
Oui, d'ailleurs, Alexis Corbière, j'imagine que cette question de la centralisation ne vous pose pas de problème en étant à la France insoumise, mais néanmoins, on entend des politologues comme Luc Rouban, invité hier au Matin de France Culture, dire que ce que nous voyons là, c'est la crise de l'État rationnel, dit-il, c'est-à-dire la façon dont les Français avaient une vision d'un État qui était justement rationnel, qui mettait en œuvre les meilleures politiques possibles, et donc là, le doute sur l'efficacité de ce même État, et en parallèle, évidemment, l'idée que peut-être plus de démocratie locale pourrait aider justement à mieux résoudre ce type de crise. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Corbière?
Alors, plusieurs choses. Je vais essayer de. D'abord, ce qui avait été, je sors là du confinement, un des moments forts d'entrée d'Emmanuel Macron, président de la République, c'était qu'il avait réuni les parlementaires au Congrès à Versailles et il avait dit « je vous propose un pacte girondin ». Ce débat d'un État centralisé, etc., c'est, Emmanuel Macron s'inscrit quand même dans une volonté, lui, de décentralisation. Et voilà. Alors, j'utilise le mot girondin parce qu'il y aurait beaucoup de débats historiques. Moi, je suis, si on devait me donner une filiation, jacobin. C'est-à-dire, c'est quoi l'idée? C'est d'assurer l'égalité des droits sur tout le territoire. D'abord, c'est ça. Évitons d'utiliser des mots piégés. Alors, je pense que des politiques qui ont été menées, que je vais qualifier de néolibérales, qui souvent faisaient le choix d'économies, notamment sur des budgets de politique publique, notamment sur notre hôpital, dont nous étions si fiers, qui était quasiment un élément notre identité nationale républicaine. On disait en France, notre système de santé, au moins il fonctionne, au moins il n'est pas comme dans les autres pays. Et on s'est aperçu que toutes ces politiques, selon moi, c'est mon analyse, ont terriblement affaibli notamment notre système d'hôpital public. Et quand le virus est arrivé, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous avons découvert que, hormis le courage magnifique de nos personnels de santé, etc., etc., nous étions en position de faiblesse. Ça, c'est donc, comment dirais-je, ça n'est pas un trop état qui a été critiqué là-dedans, mais c'est l'affaiblissement, ou c'est du moins les conséquences, selon moi, de politiques d'affaiblissement qui sont apparues à nu aux yeux de beaucoup de nos concitoyens. Bon, peut-être qu'un bien pourra sortir de ce mal, où nous nous dirons, en sortant de tout ça, plus jamais ça. Donc, créons les conditions, effectivement, que nous ayons des lits de réanimation à un nombre significatif, etc., etc. Je tiens à rappeler que la stratégie du confinement n'était que la conséquence d'un problème d'absorption de notre hôpital public. On aurait pu imaginer autre chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si le gouvernement nous propose la date du 11 mai de sortir du confinement, c'est que nous pensons que nous avons la capacité, par rapport à d'autres de nos concitoyens qui tomberont à nouveau malades, de les accueillir à nouveau à l'hôpital. Donc, tout est lié. Donc, moi, je trouverais contre-intuitif, que la conclusion qui soit tirée politiquement, j'entends, de la tragédie qu'on vient de vivre ensemble, car c'est une tragédie, 25 000 personnes qui ont perdu la vie, c'est un choc qui restera, c'est un traumatisme qui va rester dans notre histoire, 25 000 personnes qui ont perdu la vie en l'espace de quelques semaines. C'est un chiffre significatif, c'est grave ce qui vient d'avoir lieu. Et j'espère que la conclusion que nous en tirerons, effectivement, c'est de créer les conditions que nous puissions, face à d'autres peut-être crises qui arriveront, pouvoir y faire face. Et je ne crois pas que ce soit l'État centralisé, je ne crois pas que ce soit la centralisation des décisions qui a été à mal durant cette période. C'est plutôt l'inverse. Et on en revient à notre débat. Les collectivités là-dedans, elles sont sollicitées par un État qui s'est affaibli pour dire aidez-nous maintenant à faire face. Alors elles font ce qu'elles peuvent. Mais moi, ce qui me choque, c'est pas que les collectivités agissent, tant mieux, merci. C'est que les collectivités, par définition, ne peuvent pas proposer la même chose partout. Moi, dans ma commune, je suis député, dans ma circonscription, il y a deux villes, eh bien, les aides qui sont apportées à la population, vous savez que chaque ville, maintenant, ce n'est pas la même somme qui va être donnée aux gens les plus en difficulté. Et en quoi est-ce normal que, on bénéficie ici de 100 euros et dans une autre commune de 80 euros? Et ainsi de suite. Moi, je ne suis pas d'accord pour que les aides sociales apportées aux plus défavorisés soient en fonction de la richesse de la commune ou pas. Bon sang, je suis attaché à l'égalité des droits. Et faisons attention à ce que ce soit pas une règle d'inégalité qui se mette en place.
Agnès Lebrun, on voit d'ailleurs que devant l'hypothèse du 11 mai comme étant le début du déconfinement, eh bien, ça tire un peu à Huéadia. On a vu 316 maires d'Île-de-France, dont Anne Hidalgo, demander solennellement au président de la République de repousser l'ouverture des écoles dans les départements rouges, jugeant cette date intenable et irréaliste. On a vu le président de votre association des maires de France, François Baroin, c'était la semaine dernière, dire que les maires ne voulaient pas être des kamikazes en matière de responsabilité pénale. On voit que ça tire un peu à Huéadia, alors que le gouvernement voudrait, j'imagine, que tout se passe au mieux entre les collectivités et le pouvoir central.
Tout le monde souhaite que tout se passe au mieux, simplement le pacte de confiance n'était pas au rendez-vous. Le postulat, c'était la confiance. Et en l'occurrence, l'État, a confondu le fait de donner des responsabilités et le fait de faire de nous des administrateurs. Or, les maires ne sont pas des administrateurs de ce que souhaite l'État. Et peut-être pour aussi faire écho à ce que disait Alexis Corbière, ce dont on ne parle pas, c'est que c'est quoi l'État actuellement ? C'est quoi aujourd'hui l'État ? L'État, il s'est morcelé. Il s'est à la fois rigidifié et il s'est morcelé. Et il s'est morcelé par des tas de structures, de comités, d'agences en tout genre, qui peut donner en tout cas l'impression que l'État s'est déconcentré, mais la déconcentration, ça n'est pas cela. Prenons l'exemple très concret dans le cadre de la sortie du confinement ou de la sortie progressive du confinement des plages. Je suis maire d'une commune de Bretagne. Dans le Finistère, nous avons 1300 kilomètres de côte. Morlaix. Le Finistère, 1300 kilomètres de côte, ça signifie que la plage, c'est comme le square au bas de la rue pour nous. C'est pas du tout un endroit où la sécurité est impossible. On nous dit on ne peut pas rouvrir les plages parce qu'il est impossible de les sécuriser. Mais précisément, si on ne peut pas les sécuriser, c'est parce qu'il y a tellement d'espace que c'est impossible à sécuriser. Cherchez l'erreur. C'est-à-dire que là encore une fois, on a une vision extrêmement verticalisée, extrêmement technocratisée, où la plage d'un endroit du sud Méditerranée ne vaut pas une plage des Landes ou évidemment une plage de Bretagne. Eh bien, nous avons crié sur tous les toits aimablement qu'il serait bon de différencier les choses et d'avoir une appréciation que le couple préfet-maire est en mesure d'apporter. Qu'est-ce que ça apporterait de moins à l'État de nous laisser faire ce qu'on sait faire ? Sauf que ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que les maires sont toujours au rendez-vous parce qu'on leur demande de faire des tas de choses, on se décharge un certain nombre de responsabilités sur eux, sans jamais les moyens qui vont avec, parce que dans les dernières années, quand même, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de compétences qui nous ont été confiées, et il n'y a jamais la compensation financière qui va avec, donc là, très bien, on le fait, mais on n'a jamais ce retour qui est que les maires incarnent la démocratie locale. Et ce pacte de confiance qui est rompu avec les Français, il est bien là. Le maire, il est incarné, l'État ne l'est plus. Il y a effectivement ce discours martial, il y a ce du président de la République, ensuite il y a ce discours un peu merkelisé du Premier ministre qui dit « aujourd'hui je vous dis ça, demain je vous dirai peut-être autre chose parce que chaque jour apporte des informations nouvelles ». Il joue l'humilité, c'est très bien. Sauf que la conséquence, c'est que le degré d'anxiété est tel dans la population que finalement c'est l'effet inverse de celui qu'on recherche. La population est tout à fait en ordre de marche pour la transgression. Et c'est ça qui est dangereux.
Vous écoutez Le Temps du Débat, vous écoutez Le Temps du Débat sur France Culture avec trois invités, Anne-Cécile Douillet, Agnès Lebrun qu'on vient d'entendre et Alexis Corbière. Le thème de cette émission, du retour de l'État au retour des collectivités.
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Anne-Cécile Douillet, vous êtes avec nous, vous êtes spécialiste de sciences politiques. Ce discours que l'on entend de la part d'Agnès Lebrun, donc maire de Morlaix et vice-présidente de l'Association des maires de France, ou encore d'Alexis Corbière, qui est lui député de Seine-Saint-Denis, c'est un discours récurrent, effectivement, d'un État qui serait trop technocratisé, qui se préoccuperait de façon mal, d'une certaine façon, de la manière de gérer les territoires, etc. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une sorte de jeu de représentation entre État et collectivité, qui est une sorte de jeu de rôle, pourrait-on dire, entre les uns et les autres?
Alors oui, toujours en partie, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives des collectivités territoriales qui sont effectivement pour interpeller l'État. Mais c'est aussi, me semble-t-il, de toute façon, l'intérêt des collectivités territoriales, c'est qu'à un moment, elles puissent jouer un rôle de contre-pouvoir. Parce qu'effectivement, au-delà de la question de savoir si les plus efficaces d'avoir un pays décentralisé ou pas, il me semble que la vraie question autour de la décentralisation, c'est une question de démocratie. Et donc, il me semble que c'est tout à fait important que les élus locaux interpellent l'État à partir de ce qu'ils peuvent observer dans leur commune, région ou département pour questionner un certain nombre de choix politiques. Donc oui, c'est en partie un jeu de rôle. contrôle, mais qui a des vertus démocratiques, me semble-t-il. Mais effectivement, et on a c'est la limite de parfois de ce jeu-là, et celui effectivement des arguments un peu tout faits et récurrents d'élus locaux qui interpellent l'État sur le registre de d'une gestion trop technocratique, tout en parfois critiquant justement des consignes qui seraient pas assez précises et qui les laisseraient un petit peu démunis.
Agnès Lebrun, sur cette question par exemple de la responsabilité des maires, je sais que vous y êtes très attachée, en particulier dans ce contexte d'ouverture des écoles. Vous avez donc demandé justement d'une sorte de suppression de la responsabilité personnelle et pénale des maires dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Est-ce que vous pensez que vous avez bonne chance d'être entendu, ou est-ce que ça va être très compliqué? On voit que des députés et sénateurs LREM ont ce week-end proposé une meilleure protection juridique des maires, mais qu'ils ont tout de même insisté sur le fait que le principe d'irresponsabilité a priori des maires n'était pas acceptable.
Non, mais bien sûr. Mais cette tribune, elle fait surtout, c'est un contre-feu à une proposition de loi du sénateur Moret, qui lui-même a donc écrit pour mettre en place un véritable système de protection juridique. Jamais les maires n'ont demandé à être tenus pour irresponsables de tout ce qu'ils font. C'est pas le sujet. Les maires sont en responsabilité, ils ont l'habitude de... ils sont au contact de la population, d'ailleurs, qui sait les mettre en face aussi de leurs responsabilités. Les maires assument leurs responsabilités. Simplement, ils ne peuvent pas être administrateurs d'une injonction, par exemple ce protocole sanitaire, et sans avoir même pu le discuter et encore moins le négocier, et en être tenu pour responsable pénalement et à titre individuel. C'est pour cette raison que nous demandions
qu'est-ce qui vous gêne dans ce protocole
sanitaire? Ce protocole, il est assez hallucinant, il faut le dire. Je vais vous donner deux exemples. Donc d'abord, c'est 63 pages. Ensuite, ça arrive il y a quelques jours. D'autre part, ça avait fuité, c'est-à-dire que c'était un avant-projet qui a été présenté. On n'avait toujours pas de projet. On est quand même à quelques jours de la pseudo-rentrée. Et donc, ce que nous lisons, c'est finalement des protocoles quasi valable pour un milieu hospitalier. Et puis, deux exemples. Encore une fois, aucun maire n'ira contre l'analyse scientifique. Il ne s'agit pas, chacun son métier. On l'a lu attentivement, etc. Mais non seulement il ne tient pas compte des configurations particulières, la largeur des couloirs, la superficie des salles, y a-t-il une cour ou deux, est-ce que la cantine est éloignée de la salle de classe, quels sont les matériaux, est-ce qu'on est dans une école 21e siècle ou une école 3e République avec des matériaux très différents et évidemment beaucoup moins faciles dans certains cas à désinfecter. Mais deux exemples. On nous dit les élèves devront prendre leur repas à la table de classe. Pardon, je me souviens d'avoir été enfant, c'est juste impossible. Enfin, comment peut-on imaginer qu'un élève qui a été confiné, qui a envie de ce lieu de socialisation exemplaire qu'est l'école, accepterait d'être rivé à sa table et de prendre un sandwich froid en plus entre le classeur et la crèche? C'est juste impossible. On nous dit, à chaque fois que l'élève va éternuer ou se moucher, il va falloir aller lui laver les mains. Pardon, moi je me souviens de la petite fille que j'étais, je pense que si je devais reprendre la classe le 12 mai, j'éternuerais au minimum 70 fois par jour, juste histoire de me dégourdir les jambes. Donc, et c'est vraiment très technocratique. Vous voyez, c'est pas ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que comme d'habitude, la décision a précédé la concertation. Si la concertation avait précédé la décision, nous aurions pu faire des retours d'expérience, puisque nous avons mis en place des systèmes de service minimum d'accueil, des systèmes d'accueil des enfants des soignants et des missions essentielles pendant les vacances scolaires. Et nous aurions pu faire remonter un certain nombre de choses. Et évidemment, ça n'a absolument pas été le cas. Et ce que nous avons demandé, c'est que ce protocole, il soit discuté au cas par cas, pas dans un souci de rupture d'égalité. J'entends penser très fort Alexis Corbière. Il ne s'agit pas de rompre l'égalité. Il s'agit juste de discuter ce protocole avec le préfet. Et ce que nous demandions, c'était de co-signer ce protocole adapté aux réalités locales entre le maire et le préfet. Et de cette façon, à la fois le maire était protégé pénalement et il ne cherche pas à se couvrir. Se couvrir, se protéger, c'est pas la même chose. Mais chacun comprendra que dans une société extrêmement judiciarisée, il est quand même même important que les maires soient protégés. J'ajoute juste, si vous me permettez, que lorsque nous avons fait avant le Congrès la grande enquête CEVIPOF pour connaître les motivations des maires qui voulaient se représenter ou pas, l'un des motifs qu'avançaient les maires qui ne souhaitaient pas se représenter était précisément qu'ils n'en pouvaient plus d'être tenus responsables pour un pavé décelé, pour une main courante glissante, etc. Donc, je crois que il s'agit vraiment d'une coopération ratée, d'un pacte de confiance qui n'est pas au rendez-vous, alors qu'on avait l'occasion d'un exercice grandeur nature où on aurait pu ajouter un dé aux autres dés, hein, de décentralisation, différenciation, déconcentration et déconfinement.
Alexis Corbière, puisque la vertu de la radio à distance, c'est de vous entendre penser très fort, comme vient de le dire Agnès Lebrun, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Agnès Lebrun?
Ben, écoutez, sur une dimension, sur une certaine partie, oui, qu'on se méprenne pas. Moi, je l'ai dit, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il y a bien longtemps, le gouvernement aurait dû penser le déconfinement et évidemment le penser avec les maires, et évidemment le penser avec les présidents des collectivités. Comment faisons-nous pour que dans nos écoles, on puisse imaginer une rentrée scolaire à une date X qu'on aurait fixée en fonction des conclusions de cet échange? Et je comprends très bien Madame la maire qui d'un seul coup, Madame Lebrun en l'occurrence, mais je dis au sens générique, qui reçoit un document dont il n'a pas discuté, dont elle n'a pas discuté et qui peut-être concrètement en fonction tout simplement de réalités matérielles, la largeur des couloirs, le nombre de personnel que l'on a pour nettoyer à des horaires réguliers les classes, etc., devient impossible. Et je comprends parfaitement dans ces conditions qu'il y a une grande inquiétude qui monte dans le pays en disant cette date n'est pas crédible et fait monter l'idée, c'est mon opinion, vous me trouverez sans doute comme toujours un mauvais esprit, que l'urgence était de dire il faut que des gens retournent au travail et l'école n'est plus conçue comme un lieu de transmission pédagogique en vérité fort, c'est au volontariat, ce qui moi me choque qu'on dise au volontariat, non, ce n'est pas possible. Soit on cible sur une catégorie de la population parce qu'on peut pas accueillir tout le monde qui a besoin, et là ça doit être une réponse pédagogique, disons tel enfant doit retourner à l'école, soit c'est pour tout le monde, mais c'est pas au libre arbitre des gens qui bien souvent sont désemparés par rapport à cette décision parce qu'ils ne savent pas comment la prendre. Et c'est pas possible que ce soit de cette façon-là que soit imaginé la rentrée, uniquement pourquoi ? Pour que les parents puissent retourner travailler. Et ça, c'est, je ne suis pas d'accord. Donc ça fait monter une grande inquiétude et c'est tout à fait normal. Mais je voudrais pas non plus ce que disait en même temps, les idées qui me venaient en écoutant, c'est que nous devons garder une fois de plus le principe de l'égalité des droits dans la situation dans laquelle nous sommes et je crois avoir été compris sur le fait que moi ce qui me choque c'est que ce gouvernement bien souvent a lui impuissanté cela et face à la difficulté dans laquelle il s'est mis lui-même aujourd'hui espère que ce soit sur les maires et les collectivités locales que ce confinement soit ce déconfinement soit possible et de ce point de vue là encore c'est une faiblesse dont il faudra tirer les conséquences mais je suis pour évidemment qu'il y ait de la démocratie locale, je suis pour que les habitants soient consultés, je suis pour qu'il y ait une consultation permanente entre l'État et les représentants des collectivités, ça c'est une évidence, et nous en payons le prix aujourd'hui. Il y a eu quand même beaucoup de consignes contradictoires qui ont dû rendre les choses très compliquées quand on est maire, hein. Je rappelle que ce gouvernement a dit que le masque n'était pas nécessaire, puis après, parce que les Français ne savaient pas le porter, puis maintenant il va devenir quasiment obligatoire, ne serait-ce que pour aller dans une gare. Donc tout ça n'aide pas aussi localement à faire passer des consignes quand on allume la télé et qu'on a l'impression parfois que le gouvernement, selon les semaines, a des urgences totalement contradictoires. Vous voyez, donc on n'a pas eu une parole très centralisée en vérité, mais parfois un peu disloquée du point de vue de ce gouvernement selon les jours où on l'écoutait.
Anne-Cécile Douillet, il y avait un contexte très particulier, c'était celui aussi des municipales qui s'est interrompu avec le confinement. C'est un contexte qui rend encore plus complexe la possibilité justement de ces relations entre État central et municipalité, puisqu'il n'y a toujours pas de municipalité qui a été élue au premier tour, qui a pu prendre ses fonctions, puisqu'on se demande si ces municipales vont être reportées à septembre et dans quelles conditions, etc.
Les nouveaux exécutifs locaux, enfin municipaux, n'ont pas pu s'installer dans un certain nombre de villes. Effectivement, les élections sont suspendues. Donc, effectivement, les équipes municipales qui doivent gérer cette crise ont en plus, effectivement, sont dans une situation d'entre-deux qui rend la situation forcément plus compliquée. Et puis, par ailleurs, les communes étaient celles qui étaient en charge d'organiser les élections. Et donc, là aussi, finalement, le gouvernement les a mis dans une situation un petit peu compliquée, puisque elles ont été finalement obligées d'organiser ces élections et ont été du coup dans l'obligation de mettre en place tout un ensemble de protocoles pour limiter la contagion dans les bureaux de vote. Rien que cet événement-là a placé les communes dans une forme d'injonction à suivre la politique de l'État.
Et vous êtes spécialiste par ailleurs des questions de sécurité, donc sur les territoires. Il y a aussi des paradoxes. Il y a quelque temps, il fallait mettre en place de la vidéosurveillance et pourquoi pas de la reconnaissance faciale. Et désormais, peut-être, on sera tous avec un masque dans la rue, ce qui rendra d'autant plus difficile cet exercice de reconnaissance faciale. Tout cela, j'imagine que pour les municipalités, c'est passer d'un pied sur l'autre.
Oui, alors ça, avec des réactions qui sont très variables d'une municipalité à l'autre, parce que c'est là que cette crise sanitaire a aussi été à nouveau l'occasion pour un certain nombre de municipalités de vouloir marquer leurs différences en matière de politique de sécurité. Alors sécurité sanitaire, sécurité au sens large, les deux se mélangent parfois avec les mêmes outils. On le voit aujourd'hui par exemple à Cannes avec la mise en place de tout un dispositif capable de voir quelle proportion de la population est masquée ou pas. Donc voilà, c'est-à-dire que là aussi, cette question de la sécurité montre comment cet enjeu est souvent aussi pour un certain nombre des locaux et de maires en particulier le moyen de se positionner, de se démarquer, souvent à travers d'ailleurs des arrêtés ou des dispositifs qui ne sont pas toujours légaux, ils le savent, mais ils tentent le coup pour aussi exister et se positionner politiquement.
Agnès Lebrun, est-ce que vous croyez à ces municipales qui devraient venir, puisque ça fait partie effectivement de l'échéance électorale qui a été interrompue par la crise, et dans quelles conditions pourront-elles se tenir, ces municipalités, ces élections municipales, dans un contexte extrêmement difficile?
C'est une situation totalement inédite, donc il n'y a pas de bonne solution en vérité, puisque le départ est mauvais, si je puis dire. C'est-à-dire que quand on dit que les restaurants ferment à minuit un samedi tout à fait brutalement et que le lendemain néanmoins les opérations de vote se déroulent, évidemment cette brutalité-là ne peut pas offrir la sincérité que l'on peut attendre d'un scrutin municipal ou un autre d'ailleurs. Donc là, ce qui est important maintenant, effectivement, compte tenu de la difficulté quand tous ces maires sortants qui sont en fonction, même s'ils avaient d'autres projets, notamment s'ils ne se représentaient pas. Ce qui est important maintenant, c'est que le cycle électoral aboutisse. C'est ça qui est essentiel. C'est que le cycle électoral aboutisse, alors quand le plus vite possible.
Quitte à refaire deux tours, là où il y a... Quitte à refaire deux tours,
de toute façon, le Conseil d'État a été tout à fait clair là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain espace, enfin au-delà de trois mois, entre le premier tour et le deuxième tour, il faut refaire les deux tours. Donc, et ça ouvre d'ailleurs une autre question. C'est ceux qui ont été battus dès le premier tour à quelques dizaines de voix qui peuvent assez légitimement, me semble-t-il, exprimer le fait qu'il y a une forme d'insincérité de scrutin. Ils parlent même d'abstention imposée, puisqu'il y avait à la fois, il y avait une grande contradiction entre l'injonction sanitaire et l'exercice du droit de vote. Donc c'est une situation très très désagréable pour tout le monde en vérité, mais dont ceux qui fait les frais, c'est la démocratie, tout simplement.
Est-ce que vous croyez, le ministre des Collectivités Territoriales, Sébastien Lecornu, quand il dit à propos de l'argent qui sera versé, la dotation qui sera versée aux municipalités et aux collectivités territoriales, que eh bien le gouvernement ne vous n'abandonnera personne et travaille à une nouvelle dotation d'investissement justement pour prendre en compte cette crise qui touche au premier chef les municipalités mais aussi d'autres collectivités territoriales?
Non, voilà. Nous ne croyons plus aux promesses, et en particulier les promesses concernant des dotations financières, dont on a bien vu que bien souvent elles n'étaient que des promesses, elles n'étaient jamais tenues. En revanche, nous croyons beaucoup à des choses très concrètes, comme par exemple le plan Action Cœur de Ville et le plan de relance qui est proposé dans la suite de l'Action Cœur de Ville, qui protège les villes moyennes, les villes de strates intermédiaires. C'est du concret, c'est du pragmatique, et c'est vraiment là une page à écrire conjointement. En innovant et en créant des choses nouvelles pour la relance des villes moyennes.
Alexis Corvière, cette question de la confiance, on voit bien qu'elle était entamée avant même la crise du coronavirus, mais qu'elle est au cœur de ces relations entre collectivités territoriales et État.
Oui, mais je comprendrais que je suis mal positionné pour parler de la confiance, parce que moi je suis un opposant à ce gouvernement depuis 2017, donc c'est délicat, c'est sur les faits qu'il faut juger les choses. Moi, vous aurez compris que mon problème n'est pas tellement la centralisation des décisions, mais plutôt des erreurs qui ont été faites. Le cas des municipales est très intéressant. Nous n'avons pas été consultés, je crois pas plus nous que Madame Lebrun ou autre, pour savoir s'il fallait ou non tenir ces élections. Nous n'avions pas les mêmes éléments que le gouvernement, entouré de scientifiques pour prendre la bonne décision. Et j'ai été choqué que par la suite, la ligne d'argumentation du gouvernement était de dire qu'il n'y avait pas consensus et qu'en gros, c'était les forces politiques d'opposition qui avaient imposé au gouvernement la tenue de ces municipales. C'est ça qui est choquant. De la même façon, je tenais à dire avant que l'émission s'arrête que je comprends Madame Lebrun qui dit tout à l'heure que les maires ne voudraient pas être sanctionnés pénalement pour des choses dont ils n'ont pas la responsabilité, mais je suis aussi choqué de la petite musique qui monte, notamment portée par la députée Aurore Berger, qui disait qu'elle allait proposer ça, qui est une impunité totale qui soit proposée, rétroactive d'ailleurs, ce qui est contraire selon moi au principe de la loi, pour qu'il n'y ait aucune poursuite pénale contre les dépositaires des autorités publiques. Moi, autant je comprends que les maires mis en situation difficile ne doivent pas être les boucs émissaires des problèmes, autant je conçois que peut-être certains citoyens porteront plainte, pourquoi pas contre tel ministre ou pourquoi pas contre telle autorité publique s'ils considèrent que des mauvaises décisions ont été prises. Attention à ce qu'il n'y ait pas un grand parapluie ouvert de la part de certains pour dire nous ne sommes responsables de rien, ou pire, c'est la faute, là encore, du lampiste, du maire local ou de l'opposition qui ne nous a pas écoutés, tel que le président de la République l'avait dit, hein, qu'il faudra tirer des leçons, et notamment ceux qui ont cherché à briser l'unité nationale. Bon, voilà. Mais là encore, gardons les conditions aujourd'hui à ce que demain, si cela se reproduit, nous ayons une République une et indivisible qui garantit l'égalité des droits des citoyens, notamment le droit à la santé, à la sécurité, et je crois que des politiques économiques et des choix qui ont été faits ont largement affaibli ce principe.
Merci à vous, Alexis Corbière. Merci Agnès Lebrun, donc vice-présidente de l'Association des maires de France et maire de Morlaix divers droites, et ainsi qu'à Anne-Cécile Douillet, donc professeure de sciences politiques à Lille et co-autrice avec Rémi Lefebvre de Sociologie politique du pouvoir local. C'était le temps du débat. Merci à toute l'équipe, Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier, Manon Prissé, qui tous les jours prépare cette émission avec moi et qui continue de nourrir chaque jour ce qu'on appelle la conversation mondiale sur le site de France Culture, des textes d'intellectuels, d'écrivains et d'artistes du monde entier sur la crise que nous vivons. Merci également au service web de France Culture qui nous épaule dans cette tâche, mais aussi pour cette émission enregistrée chacun chez soi, à Jean-Marc Clos, à Christian-Denis Lecèvre, à Marie-Christine Vesely, et à la technique à Radio France, il garde la maison, à Nasser Moussaoui et à Thibaut Nassim Ben, et à la réalisation, eh bien, Alexandre Manzanares. Demain, nous poserons la question de l'école, savoir s'il faut, tout compte fait, la réinventer à partir de ce que nous vivons aujourd'hui.